Cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 11 janvier 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
La partie philosophique de l'éthique est une partie essentiellement pratique. Il faut toujours se dire ça. Commandé directement par la finalité. Je ne peux pas établir une éthique sans la finalité. La finalité est donc ce qui spécifie l'homme moral. Quand il n'y a plus de finalité, il n'y a plus d'homme moral responsable. Cette activité, parce que les deux se tiennent, n'est-ce pas ? Oh, très bien. Certains sénateurs aujourd'hui sont affolés de voir combien les hommes politiques sont amoraux. Est-ce qu'on peut encore gouverner un pays comme ça ? Là, je dis, comment redonner un sens moral ? Par la responsabilité. Non. La responsabilité est une conséquence. C'est une propriété. C'est pas elle qui... C'est la finalité. Il n'y a que les finalités. Certains veulent redonner le sens moral par le sens des valeurs. C'est une philosophie qui s'est beaucoup développée en Hongrie, au point de vue des valeurs. Mais vous voyez que c'est une cause exemplaire, les valeurs. Parce que les valeurs, c'est un idéal. C'est stoïcien, un idéal qui joue. On ne peut pas établir une morale par le point de vue des valeurs. C'est le très gros problème que tous les philosophes qui touchent la question morale cherchent aujourd'hui. Ricoeur, qui est peut-être un de ceux qui a plus de sens moral, parce qu'il est très profondément croyant, un protestant qui est un peu là. La tête pensante des protestants de langue française. En Suisse, c'est très net. Ricoeur lui-même cherche sur quoi se fonde la morale. Je vous l'ai déjà dit, c'est la question que je me pose depuis 30 ans. Parce que on réfléchit le point du moral, c'est ça. Alors, les théologiens considèrent que les philosophes d'ici ne connaissent pas assez le point du moral. Mais au point de vue philosophique, au point de vue théologique, la morale de saint Thomas, c'est très bien. Elle est très bonne. Et au point de vue philosophique, l'éthique d'Aristote repose sur quoi ? Le sens du bonheur. Si un homme ne cherche pas son bonheur, il n'y a pas de morale. Le bonheur, c'est la finalité. Or, quelle est la finalité humaine ? Le bonheur, c'est lointain. Il y en a une plus immédiate, l'amour d'amitié. Et c'est pour ça que je crois, personnellement, et plus j'avance, plus ça se confirme, et on a de la peine à le comprendre. C'est vraiment l'amour d'amitié qui permet de comprendre ce que c'est que l'éthique. Moi, mon amitié repose sur un amour personnel, spirituel, et une prise en responsabilité. Par l'amitié, on prend responsabilité d'un homme, d'une personne, de l'ami. L'amitié vous donne un sens de responsabilité. Ça, c'est sûr. Un sens de responsabilité de façon très, très forte. Alors, il y a une première finalité qui est l'amitié, qui fonde la morale de base. Elle a découvert de l'existence de Dieu, qui ajoute au point de vue moral le point de vue de l'adoration. La morale religieuse repose sur l'adoration. C'est elle qui fait tout changer. Et une troisième morale, morale chrétienne. Alors vous voyez la difficulté. Les deux premières morales relèvent uniquement de notre intelligence et de notre volonté. Tout le monde peut découvrir l'existence de Dieu et adorer Dieu. Tandis que la morale chrétienne présuppose la foi. Alors, voyez cette chose curieuse. La morale chrétienne, alors on dira, ah, vous êtes en théologie. Quelle différence y a-t-il entre le cours que nous allons faire ensemble, essayer de le faire, parce que ça n'existe pas, la morale chrétienne et la théologie. Je ne veux pas faire un cours de théologie sur l'acte humain, je laisse ça aux théologiens. Mais je veux faire un cours de philosophie sur la morale chrétienne. Alors, quelle différence y a-t-il entre un théologien, théologie morale, et le cours de philosophie sur la morale chrétienne ? Je pose tout de suite le problème. C'est que dès qu'il y a une nouvelle fin, il y a une nouvelle morale. Or, le point de vue chrétien apporte une nouvelle fin, une nouvelle finalité. La finalité précise que déjà au point de vue philosophique, on avait montré comme une fin ultime qui devient une fin propre, voir Dieu. La béatitude, voir Dieu face à face. Voir Dieu face à face par l'intermédiaire de Jésus. Parce que c'est cette médiation de Jésus qui me donne concrètement la morale chrétienne. La morale de l'Ancien Testament est en vue de la morale chrétienne. Parce que je pourrais dire il y a une morale de l'Ancien Testament. Enfin, il y a la loi. Donc c'est tout cuit. Facile. Nous allons faire le commentaire philosophique de la loi de Moïse. Mais cette morale de l'Ancien Testament est tout entière ordonnée à la morale chrétienne. Elle est imparfaite. comparativement à la morale chrétienne. Alors, la morale chrétienne, l'éthique chrétienne existe parce qu'il y a une nouvelle fin. Ça, je suis bien obligé de l'accepter. Alors, je crois qu'on peut faire cette différence. En éthique chrétienne, je vois comment l'éthique chrétienne développe l'homme. En théologie morale, je commence par la foi et je vois le Fils de Dieu. Et je crois que cette distinction est suffisante pour comprendre qu'il existe une éthique chrétienne. L'éthique chrétienne va nous montrer comment Jésus est chef, fondateur d'une éthique nouvelle. L'éthique chrétienne. Et que cette éthique chrétienne va permettre à l'homme d'être parfaitement homme. Je ne peux pas être plus développé comme homme que par l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne développe en moi tout ce qu'il y a d'humain et le développe d'une façon très éminente. Le levain qui fait lever la pâte humaine, et par ce levain évangélique, la pâte humaine est soulevée, transformée. Voyez donc, matériellement, la théologie morale et l'éthique, la philosophie d'éthique chrétienne sont les mêmes. Formellement, non. Parce que, c'est très vrai, j'emprunte à la fois la finalité chrétienne. Mais je vois ce que cette finalité peut transformer dans l'homme. Peut transformer l'humain. Faire que l'humain est plus développé dans une éthique chrétienne que dans une éthique tout court. Et cela légitime et suffit à dire qu'il y a une éthique chrétienne. Parce que ça me met en lumière tout le point de vue. C'est pas de l'apologétique, hein. Mais ça met en lumière tout ce que la grâce chrétienne va transformer dans l'homme. Et que cette transformation de l'homme permet d'être plus homme qu'avant. Autrement dit, le Christ qui m'est donné pour fonder ma morale chrétienne me permet d'être plus homme que si Jésus n'était pas là. Je crois que c'est suffisant pour bien situer alors, la morale chrétienne, l'éthique chrétienne. Réfléchissez-y, si vous voyez des objections, notez-les, et puis on essaiera d'y répondre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier, Parce qu'il faut la foi chrétienne, il faut la réflexion philosophique. Si je n'ai pas la réflexion philosophique sur l'homme, sur la morale de base, et sur la morale tout simplement philosophique, je ne verrai pas ce que l'éthique chrétienne apporte de nouveau. Et c'est pourtant bien important de comprendre philosophiquement. Je dis ça, vous voyez, pour les incroyants, c'est très important. C'est pas d'apologétique, mais c'est montrer que le christianisme permet à l'homme d'être plus homme. Et c'est pas toujours vrai, hein. C'est ça qui est désastreux. C'est que le christianisme, quelquefois, permet à l'homme d'être plus astucieux. De ne pas payer ses impôts. Mais au fond, en réalité, l'éthique chrétienne permet à l'homme d'être plus homme. Alors, je commence cette éthique chrétienne par voir qu'il y a un médiateur, Jésus. C'est ce médiateur qui est parfaitement homme et parfaitement Dieu, qui me permet de comprendre comment son enseignement va être un enseignement parfait au point de vue humain et un enseignement parfait au point de vue divin. Et je cherche à préciser ce que Jésus a enseigné comme moyen que le Christ a enseigné comme charte de la vie chrétienne. Alors je pense tout de suite aux béatitudes. Mais les béatitudes ne suffisent pas. Jésus s'est donné lui-même comme modèle. Et je retrouve ici quelque chose qui est très important à souligner, c'est que dans l'éthique stoïcienne, le point de vue de la cause exemplaire joue un très grand rôle. Or, dans l'éthique chrétienne, la cause exemplaire va jouer un rôle très grand. C'est à partir du Christ et à partir de l'enseignement du Christ que je peux seul saisir ce qu'il y a de propre à l'éthique chrétienne. Donc, il y a une éthique semblerait particulièrement apte à comprendre l'éthique chrétienne, l'éthique des stoïciens. où l'exemple joue un rôle capital. Dans Aristote aussi, l'exemple joue un très grand rôle, mais beaucoup plus dans l'éthique stoïcienne, où il est bon de voir que des hommes jouent le rôle de modèle. Et c'est en ce sens-là qu'on a pris beaucoup Socrate comme modèle. Dans l'éthique stoïcienne, Socrate est montré comme modèle. Et c'est pour ça qu'on a fait de Socrate à Jésus, le parallèle entre Socrate et Jésus, comme cause exemplaire. Mais il y a une grosse différence, puisque Socrate se donne comme modèle quand il boit la ciguë. Jésus est modèle dans le mystère de la croix. Mais il y a sûrement un parallèle analogique, c'est-à-dire une très grande diversité, et cependant quelque chose de vrai. La morale a besoin d'exemples, a besoin de se solidifier grâce aux exemples. Parce qu'on est dans l'ordre pratique. Et que le principe, la finalité, le principe propre de la finalité, peut se saisir de diverses manières. Et donc, il est bon de comprendre que la cause exemplaire joue un rôle très grand. Et là, nous avons ce fait que la causalité exemplaire dans le Christ est parfaite. On a une cause exemplaire qui est principe, qui est source. C'est unique, ça. Puisque même la morale stoïcienne avec Socrate n'a pas ça. Socrate est un homme héroïque de voir la ciguë, d'obéir, de voir la ciguë, mais il reste un homme. La morale nietzschéenne du surhomme serait aussi très importante à évoquer. Parce qu'on peut dire que Jésus est un surhomme. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Donc il est le surhomme rêvé. Et c'est pour ça qu'il peut pas être toujours modèle. On va donc voir ces deux aspects. Regardez la finalité propre que Jésus nous apporte. Il vient comme sauveur. Donc il vient nous introduire dans un royaume qui n'est pas de ce monde. Ah. Autre difficulté. Jésus nous introduit dans un monde qui n'est pas de ce monde. Or, l'éthique est essentiellement de ce monde. Jésus nous introduit dans un royaume qui n'est pas de ce monde, dans un royaume qui est le royaume du Père. Et Jésus, par sa vie et par sa mort, qui résume toute sa vie, Jésus nous montre une voie d'accès à cette finalité. Comment nous pouvons nous appuyer sur Jésus par voie d'exemple? Vous voyez bien que la morale chrétienne nous introduit dans un royaume divin qui n'est pas de ce monde. Ce qui fait que cette morale n'est pas entièrement vécue sur la terre. Il n'y a que commencer. La mort du Christ est une mort de sagesse. Nous montre comment Jésus est modèle en nous permettant de le dépasser. Adam, fils de Dieu, fils du Père, c'est le Père qui termine tout. La mort du Christ est un moyen. Un moyen qui doit éclairer toute cette morale chrétienne, mais qui l'éclaire et qui montre que cette morale chrétienne ne sera jamais parfaite sur terre. Alors, la première chose qu'il faut regarder dans cette morale, c'est de faire comprendre le primat de la miséricorde sur la justice. Et que d'une certaine façon, tout est commandé par la miséricorde. Et que Jésus termine sa vie dans le ciel. Il ne renie pas sa vie de la terre, mais il en montre. Première chose à regarder sera donc l'esprit. C'est une morale spirituelle qui nous dépasse, qui n'a pas de fin sur ce monde. D'une certaine façon, c'est donc une morale qui reconnaît qu'elle ne peut pas avoir de finalité sur ce monde. Mon royaume n'est pas ce monde. Mais qui permet d'atteindre une finalité ultime au-delà de ce monde. Et c'est un petit peu contradictoire
une morale qui n'est pas de ce monde et qui doit être une morale, puisqu'on est dans ce monde. Alors, il faut comprendre que cette morale chrétienne existe. Première chose à regarder, c'est l'esprit des béatitudes. Deuxième chose à regarder, la mort du Christ. La morale chrétienne est d'abord, en premier lieu, un esprit. Il n'y a pas de morale comme ça. C'est la seule morale comme ça. Parce qu'elle n'a pas de finalité sur le monde. Il y a des hommes chrétiens partout. Mais l'homme chrétien n'a pas sa demeure sur terre. C'est quand même très cru pour une morale. Il a sa demeure au-delà et en dehors de ce monde. Il faut comprendre que cette morale chrétienne demeure ici sur terre. C'est ce point de vue très très spécial, mais qui est presque prophétique. C'est un esprit. Et elle ne va s'établir sur terre, bien qu'elle s'établisse en partie. Cette morale chrétienne aura quelque chose de terrestre dans le mariage. On s'établit sur terre. Dès le point de départ, du reste, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu fait quitter l'endroit où se trouve Abraham pour aller dans un autre lieu. Donc, elle n'est pas indifférente au monde. Elle n'est pas indifférente au lieu et au temps. Mais elle s'accroche à tel lieu, tel temps. Il y a des conséquences. Mais jamais cette morale ne prendra sa spécification de la terre. Mon royaume n'est pas ce monde. Et donc, cette morale chrétienne a ceci de particulier, c'est qu'elle doit être saisie comme un esprit concret, un esprit divin, un esprit d'amour. Et c'est ce que on constate tout de suite quand on regarde les béatitudes. La charte de la morale chrétienne. Dans l'Ancien Testament, Moïse a donné la loi. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous donne les béatitudes. Les béatitudes ne suppriment pas la loi, mais la dépassent. Et les béatitudes vont nécessairement donner à l'homme une ligne de vie, un esprit très particulier. Première béatitude, bienheureux les pauvres. La morale chrétienne commence par cet esprit de pauvreté. C'est Jésus qui montre, qui rappelle et qui montre que cette morale qu'il veut réclame ce dépaysement. Le chrétien peut vivre et doit vivre dans un lieu, mais il n'a pas à y considérer que tout doit se réaliser dans ce lieu. Donc, bienheureux les pauvres, c'est de montrer qu'aucune stabilité humaine n'est impliquée dans cette morale. Dès le point de départ, elle vous montre que c'est un esprit. Et l'esprit de pauvreté, qui justement est un esprit qui doit permettre aux chrétiens de montrer aux chrétiens qu'ils ne s'installent pas sur terre. Parce que cet esprit de pauvreté l'exige. Il s'installe parce qu'il doit vivre, mais son cœur n'est pas là. Son cœur n'est pas dans ce lieu, sur cette terre. Elle n'est pas liée à un pays. Bienheureux les pauvres. Elle implique une espèce d'ouverture très grande, sans frontières. Pour être avec Jésus. Et Jésus est né dans un lieu, mais sans partir, sans demeurer là. Nous allons regarder successivement les béatitudes pour essayer de comprendre ce qu'est l'esprit. Puis la croix. Je crois que ce sont les deux points les plus nets. La finalité, la cause exemplaire.